présent. Quand je me réveille au sous-sol, mon esprit aspire aussitôt à la lumière du soleil, qui permettrait à mon horloge interne de m'ancrer dans la réalité, ou à quelque chose qui m'indique que je n'ai pas fini par perdre la tête. Si je n'entends pas Jack, je devine qu'il est tout prêt, à l'affût. Tout à coup, la porte s'ouvre vivement. « Tu as intérêt à te bouger si tu veux que nous soyons à l'heure pour emmener Millie déjeuner, » dit-il, tandis que je me lève lentement. Je devrais me réjouir de cette visite. En vérité, voir ma sœur est de plus en plus difficile. Depuis qu'elle m'a révélé que Jack l'avait poussée, elle compte sur moi pour agir. Je commence à redouter le jour où elle réussira à convaincre Jack d'aller manger à l'hôtel, parce que je ne veux pas être obligée de lui avouer que je n'ai toujours pas de solution. À l'époque, je n'imaginais pas que la situation n'aurait pas évolué un an plus tard. Je me doutais qu'il serait difficile de m'échapper, mais je ne pensais pas que ça serait carrément impossible. Et voici qu'il ne reste plus que 74 jours. L'idée que Jack les dénombre comme un enfant trépigne d'impatience avant Noël me rend malade. Comme d'habitude, Millie et Janice attendent sur le banc. Nous échangeons quelques mots. Janice demande si nous nous sommes amusés au mariage la semaine précédente et au week-end entre amis, celle d'avant. Et Jack me laisse inventer que la noce, formidable, a eu lieu dans le Devon et que nous avons été séduits par le Peak District où vivent nos amis. Jack, qui ne manque jamais une occasion de déployer son charme, dit à Janice qu'elle est un trésor de nous permettre de profiter au maximum du peu de temps dont dispose encore notre couple avant que Millie emménage avec nous. Elle répond que ça ne la gêne pas du tout, qu'elle adore Millie et est ravie de nous remplacer quand c'est nécessaire. Elle ajoute que Millie lui manquera et réitère sa promesse de nous rendre souvent visite, ce que Jack s'arrangera pour éviter, bien sûr. Nous évoquons la santé de ma sœur et Janice nous informe que, grâce au somnifère, elle dort bien la nuit, ce qui signifie qu'elle est redevenue la jeune fille agréable qu'elle était pendant la journée. « Pardonnez-moi, » termine-t-elle après avoir consulté sa montre, « mais je vais devoir vous laisser. Ma mère va me tuer si je suis en retard au déjeuner. » « Il faut que nous y allions aussi, » la rassure Jack.
« On va haute aujourd'hui, s'il te plaît, »
s'empresse de demander Millie. Il ouvre la bouche pour refuser, mais Janice intervient. « Millie m'a beaucoup parlé de cet endroit. Elle l'aime énormément et elle a promis de faire un exposé en classe lundi. N'est-ce pas, Millie ?» Cette dernière opine avec enthousiasme. « Comme elle nous a déjà raconté le restaurant du lac et celui qui sert des crêpes, nous avons hâte de tout savoir sur celui-ci. Madame Goodrich envisage d'ailleurs d'y organiser le dîner de fin d'année avec le personnel. Elle a donc chargé Millie de la renseigner dessus.
« Hôte pour Madame Goodrich !»
confirme Millie.
« Alors va pour l'hôtel, » concède Jack, en dissimulant son irritation derrière un sourire indulgent.
Pendant le repas, Millie discute avec Entrain. À la fin, elle annonce qu'elle doit aller aux toilettes.
« Eh bien, vas-y, » lui dit Jack.
Elle se lève.
« Grace, venir !»«
C'est inutile, » objecte-t-il d'une voix ferme. « Tu es tout à fait capable d'y aller seule. »«
J'ai règle, » claironne-t-elle. « Besoin, Grace !»«
D'accord, » maugrait Jack en cachant sa répulsion et en se levant à son tour. « Je vous accompagne. »«
Jack, pas permis, toi, être dame !»
proteste-t-elle hargneuse.
« Je n'irai pas plus loin que le couloir. »
Il nous y abandonne, en effet, non sans nous préciser de faire vite. Deux femmes se lavent les mains en conversant joyeusement, et Millie sautille sur place, impatiente qu'elle s'en aille. Je cherche désespérément quoi lui dire qui l'incite à penser que j'ai une solution, tout en m'émerveillant qu'elle ait réussi à amener Jack ici en impliquant Janice et Madame Goodrich.
« Tu as été très maligne. Je la félicite sitôt que les deux femmes sont sorties.
« Pareil, toi » souffle-t-elle.
« De quoi ?»«
Moi, truc pour Grace. »
Glissant la main dans sa poche, elle en tire un mouchoir.
« Secret !»
précise-t-elle avant de me le tendre. Intriguée, je déplie le tissu, m'attendant à y trouver une perle ou une fleur. En réalité, c'est une poignée de petites pilules blanches que je découvre. « Qu'est-ce que c'est ?» je demande, les sourcils froncés.
« Pour dormir, je prends pas. »«
Pourquoi ?»«
Pas besoin, »
rétorque-t-elle agacée.
« Mais elle t'aide à dormir, » j'explique avec patience.
« Je dors bien. »«
Oui, avec les cachets. Avant, ce n'était pas le cas. »
Elle secoue la tête.
« Je fais sans banc. »«
Pardon ?»«
De pas dormir. » »«
Mais pourquoi ?»
Elle referme ma main sur le mouchoir.
« Pour toi, Grace. »«
C'est très gentil, mais je n'en ai pas besoin. »«
Si, Grace. Pour George Cooney. » George Clooney ?
Oui, George Clooney mauvais. George Clooney, poussez-moi dans l'escalier. George Clooney rend Grace triste. George Clooney méchant, très méchant.
C'est à mon tour de secouer la tête. J'ai peur de ne pas comprendre.
Si. Toi compris,
affirme-t-elle.
Facile, Grace. On tue George Clooney.